20h, 21h. Jour J. Flavie Flamand sur RTL.
Une expédition scientifique franco-américaine a repéré l'épave du paquebot britannique Titanic par 4000 mètres de fond dans l'Atlantique Nord, à environ 900 km au sud de Saint-Jean-de-Terre-Neuve.
Nous sommes le 1er septembre 1985. À la faveur d'une opération militaire top secrète de la marine de guerre des États-Unis, la mer livre à l'océanographe Robert Ballard l'un de ses plus grands secrets, l'épave du Titanic. Elle est là, dans le noir abyssal, par 3843 mètres de profondeur, dans l'Atlantique Nord, à plusieurs centaines de kilomètres au sud-est de Terre-Neuve. Elle est là, profonde, encore très belle, majestueuse dans son manteau d'oxydation. Cela fait 73 ans qu'elle attend et qu'elle se laisse inexorablement ronger par le travail funeste du temps et des bactéries qui se nourrissent de son fer. Le Titanic, super paquebot, bijou de modernité, fleuron de la White Star Line, annoncé insubmersible, est devenu, dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, le tombeau de 1500 voyageurs qui voulaient atteindre New York dans un temps record. Alors, quels sont les secrets que recèle encore cette épave? Que sont devenus ses 10 ponts, sa salle à manger, son grand escalier Art Nouveau sous son impressionnant dôme de verre, ses immenses hélices et sa salle des machines? Et cette broche, à qui a-t-elle appartenu? Cette lettre, qui l'a écrite? Ce chapeau, qui l'a porté? Plongé ce soir dans les entrailles du Titanic, qui, du plus profond de l'océan, accepte encore de nous raconter quelques histoires avant qu'il ne soit trop tard et que tout soit emporté par le temps. Bonsoir à tous, bienvenue dans Jour J.
20h, 21h, Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Virginie Bruno-Beaufrère, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes responsable des expositions de la Cité de la Mer à Cherbourg, que je connais bien. Une Cité de la Mer qui accueille une exposition Titanic. Retour à Cherbourg, car il faut le préciser, le paquebot avait fait une escale sur le port normand. C'était le 10 avril 1912, 4 jours avant son naufrage. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là à Cherbourg?
Alors le 10 avril 1912, Titanic fait halte à Cherbourg pour embarquer 281 passagers à bord.
Ça doit être un événement.
Ah oui, évidemment. Évidemment. Ouais. Et surtout qu'on a beaucoup de passagers de première classe qui sont montés à bord du Titanic ce soir-là.
Qui étaient-ils? C'était des gens du coin ou c'était des gens qui avaient rejoint Cherbourg pour à un moment donné pouvoir monter sur le Titanic et faire la traversée?
Exactement. Donc de riches Américains en général, soit de riches entrepreneurs, soit des passagers d'agrément qui repassaient par Paris puis Cherbourg pour gagner New York.
Alors cette exposition, elle propose de découvrir 53 objets qui ont été retrouvés sur l'épave. Ça doit être sacrément émouvant quand même. Virginie Bruno-Beaufrère, de voir ces objets, car on le sait, en fait, ils sont porteurs d'une histoire et en plus une histoire tragique.
Ah oui, très très émouvant, puisqu'en plus on a pu être en contact avec certains descendants auxquels ces objets sont reliés. Donc c'est particulièrement touchant de pouvoir échanger avec eux, voir ces objets, remonter le fil de leur histoire.
Est-ce qu'ils sont intacts ces objets ou est-ce qu'ils sont très abîmés?
Alors ils ne sont pas très abîmés, parce qu'ils ont, subi des restaurations très très longues parfois, pour pouvoir aussi découvrir par contre par exemple les textes qui sont dans les papiers. Donc voilà, on a vraiment une grande chance d'avoir cette richesse à découvrir à Cherbourg.
Alors c'est actuellement effectivement à Cherbourg. Et puis que s'est-il passé cette nuit-là et que nous raconte aujourd'hui l'épave du Titanic? Dans un instant, dans Jour J, Paul-Henri Narjollet, qui est explorateur et océanographe français et qui connaît très bien cette épave pour y être encore allé cet été, eh bien il nous emmènera justement en exploration. A tout de suite sur RTL dans Jour J.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Bienvenue dans Jour J. Ce soir, je vous emmène sur le Titanic, dont l'épave a été retrouvée il y a exactement 36 ans. C'était le 1er septembre 1985, après 73 années dans le cachot des profondeurs de l'Atlantique Nord. C'est là que le super paquebot, annoncé alors comme insubmersible, a sombré, abandonnant ses passagers à un linceul de glace. 1500 personnes périront dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, 2h30 se seront écoulées entre le choc entre le bateau et un iceberg et la disparition totale du Titanic. Virginie Bruno-Beaufrère, merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes responsable des expositions de la Cité de la Mer à Cherbourg. Je conseille tous ceux qui passent par le Cotentin justement de s'arrêter à la Cité de la Mer car c'est un endroit absolument magnifique. Je me suis pas trompée dans les chiffres là parce qu'on lit énormément de choses, hein, notamment sur le nombre de survivants et le nombre de victimes du Titanic.
Vous avez raison. Alors, exactement, c'est 1490 passagers qui ont péri et 711 rescapés sur le 2201 personnes qui étaient à bord ce jour-là.
Alors, le Titanic, on en parle jusqu'au foot hein, ce soir sur RTL. Racontez-nous un petit peu les mensurations de la bête.
Alors, c'est l'un des plus gros paquebots de l'époque, évidemment. Donc, 269 mètres de long, 28 mètres de large, 53 mètres de haut de la quille à la cheminée. Donc, une belle bête de 45 000 tonnes, qui pour l'époque, évidemment, avec ses sister ships olympiques et les britanniques, sont les plus grands paquebots du monde.
En fait, il y avait battle, il y avait un peu la course au plus gros paquebot, au plus rapide. C'est pour ça que la White Star Line s'est lancée dans la construction de ce bateau.
Exactement. Donc, la Cunard Line et la White Star Line se voient une concurrence assez féroce pour le trafic des passagers, puisque le paquebot est le seul moyen de transport de l'époque, évidemment. Ouais. Et donc, la Cunard venait de lancer le Mauritania et le Lusitania. Et donc, en 1907, la White Star Line et les chantiers irlandais de Belfast, donc Arlan & Wolff, décident la construction de ces trois paquebots géants.
Très bien. Donc, le Titanic va prendre la mer. Si tout à coup, moi, j'avais été à Cherbourg, 4 jours avant le naufrage, et que j'embarquais. Admettons, j'embarque en première classe. Voilà. Mmh. Comment ça se passe? Parce qu'il y avait effectivement des ponts. On les a vus, d'ailleurs, on a entendu la BO du film Titanic, là, il y a un instant. C'est très bien décrit, hein, d'ailleurs, dans le film. Il y avait des ponts, il y avait des ponts privés, des promenades privées, il y avait plusieurs classes. Racontez-moi le bateau.
Alors, si je puis me permettre, déjà, vous seriez parti de Paris, de Saint-Lazare, à bord du New York Express, pour rejoindre Cherbourg directement, puisqu'une voie ferrée reliait déjà Cherbourg et Paris depuis 1858, et arriver dans cette petite gare maritime de 1912 qui a aujourd'hui disparu, sur les quais pour embarquer directement sur les petits transbordeurs, puisque les paquebots ne faisaient pas encore escale à quai, Cherbourg ne disposait pas de port en eau profonde, et on avait ces petits transbordeurs qui nous permettaient de rejoindre le paquebot, voilà, et de découvrir en effet, en fonction de votre classe, de la troisième, la seconde ou la première, le luxe et le confort de ce paquebot, puisque c'était vraiment la volonté de la White Star Line de proposer à toutes les classes, pas uniquement aux premières ou aux secondes, un confort exceptionnel à bord.
Donc même en troisième classe, le confort était considéré comme exceptionnel pour l'époque.
Tout à fait, parce que c'est vraiment la volonté de la White Star Line. À l'époque, les passagers de troisième classe n'avaient pas forcément des cabines. On avait des grands dortoirs dans lesquels ils étaient entassés. Là, on a des cabines de 2 à 10 passagers. On a un fumoir, on a une grande salle à manger, on a 4 repas par jour. Enfin, c'est vraiment des conditions de voyage qui sont exceptionnelles pour l'époque.
Combien de temps dure le voyage, la traversée?
6 jours et demi exactement. Et c'est aussi l'une des volontés de la White Star d'avoir cette régularité de voyage entre le sud de l'Angleterre et New York.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé justement dans cette fameuse nuit du 14 au 15 avril 1912? Un accident qui aurait pu être évité. En tout cas, c'est ce qu'on a toujours entendu.
C'est vrai qu'on l'a entendu. Après, il y a beaucoup de détails qui s'accumulent en effet face à Titanic. On a ces icebergs qui sont bien plus au sud que prévu, puisque l'époque est régulière de ces icebergs. Mais on a des alertes. Mais évidemment, la vitesse peut-être du Titanic, même si c'était pas une volonté du capitaine, qui ont fait que cet iceberg a été vu un peu tard et qui n'a pas pu être évité.
Ils avaient été prévenus qu'il y avait des icebergs dans la zone. Est-ce qu'il y a une négligence?
Il n'y a pas une négligence, parce qu'à bord, la télégraphie sans fil, qui est une nouveauté, innovation de l'époque, n'était pas un organe de sécurité. Et donc, d'ailleurs, les membres de la régie de la TSF n'étaient pas membres d'équipage, mais étaient employés par Marconi. Et donc, étaient plus là, finalement, pour faire la liaison des passagers avec leur famille ou avec les opérations boursières, que pour transmettre des opérations de sécurité.
D'accord.
Donc, on ne peut pas dire qu'il y a eu une négligence, non, je ne pense pas.
D'accord. En tout cas, ce bateau réputé insubmersible, hein, c'est ainsi qu'il avait été présenté. Ce bateau donc assombré plusieurs centaines de kilomètres au sud-est de Terre-Neuve, il a disparu, ce bateau, dans la nuit. Il a laissé évidemment ses passagers dans les eaux froides de l'Atlantique Nord. Et puis 73 ans après, on l'a retrouvé, cette épave, qui avait évidemment beaucoup, j'imagine, de messages encore à délivrer. Paul-Henri Narjolé nous rejoint tout de suite. Bonjour Paul-Henri, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Merci d'être avec nous depuis les États-Unis, depuis le Connecticut où vous vivez actuellement. Vous étiez encore sur l'épave du Titanic cet été, puisque vous êtes océanographe, vous êtes explorateur, mais aussi directeur du programme de recherche de la société Royal Mail Ship Titanic. Je disais il y a un instant que seule l'épave peut véritablement parler de ce qui s'est passé cette nuit-là. Est-ce qu'elle a encore des messages à nous délivrer ?
Ah, certainement, parce qu'il y a encore des points d'interrogation. Personnellement, je n'ai encore jamais vu les dégâts faits par l'iceberg sur la coque elle-même. On a des idées, on a eu quelques informations, mais de visu, on les a pas vraiment vues, quoi. Donc il y a encore quelques mystères.
Donc il y a encore des mystères sur cette épave. Dans quel état se trouve-t-elle aujourd'hui ?
Elle s'abîme de plus en plus, hein, ouais. Puisque on a commencé les plongées avec le sous-marin français Nautil en 1987. Donc au fil des années, elle se dégrade de plus en plus. On peut pas dire plus rapidement, il y a des effets qui sont visibles de plus en plus, mais petit à petit, il y a une dégradation qui est de plus en plus visible à certains endroits.
Est-ce que c'est l'une des plus belles épaves que vous ayez vues en tant qu'océanographe, Paul-Henri Narjolé ?
Absolument, absolument. D'abord parce qu'elle est profonde et ouais. qu'elle a un aspect particulier à cause de la profondeur. Puisqu'il y a des bactéries qui se développent dessus. Et bon, c'est un bateau qui était magnifique. Et la partie avant qui est toujours en bon état, visible en tous les cas, même si il y a quand même une dégradation. C'est un bateau magnifique. C'est la plus belle épave que j'ai jamais vue.
Et dites-moi, c'est comme dans le film ?
Ah, ça ressemble beaucoup, oui.
Oh, c'est dingue ! C'est dingue parce que vous y allez en fait en sous-marin.
C'est ça, on y va en petit sous-marin parce qu'il y a quand même près de 4000 mètres de fond, 3800 ouais. mètres. Et évidemment, on ne peut pas plonger avec des bouteilles ou quoi que ce soit, n'importe quel système, on ne peut pas résister à la pression. Mais les petits sous-marins peuvent se promener autour, ils ne peuvent pas aller à l'intérieur parce qu'ils sont trop gros. Mais on peut aller les visiter, on peut visiter l'intérieur avec des petits robots qui partent du sous-marin, ouais. qui sont connectés par un fil et qui permettent d'aller voir certaines pièces à l'intérieur qui sont accessibles.
Alors Paul-Henri Narjolé, si vous le voulez bien, vous allez nous emmener dans un instant à 3843 mètres de profondeur au sud-est de Terre-Neuve. On va aller avec vous sur l'épave du Titanic. En tout cas, vous allez nous le raconter, ce sera dans Jour J sur RTL. À tout de suite.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Ce soir, dans Jour J, je vous emmène en voyage dans les profondeurs de l'Atlantique Nord. Nous sommes à plusieurs centaines de kilomètres au sud-est de Terre-Neuve et l'on descend à 3843 mètres. Et c'est là qu'elle nous attend, l'épave la plus célèbre du monde, celle qui a été découverte le 1er septembre 1985, l'épave du Titanic. Paul-Henri Narjolé, c'est vous qui nous emmenez. Vous êtes directeur du programme de recherche de la société RMS Titanic. Vous étiez encore sur l'épave du Titanic cet été. Est-ce que c'est vrai que le spectacle était tellement dingue la première fois que vous êtes descendu que vous n'avez pas pu ouvrir la bouche de toute l'exploration ?
En effet, on était trois dans le sous-marin, hein, on ne descend pas tout seul. Et pendant à peu près 10 minutes, au moment où on est arrivé sur l'épave, on n'a pas échangé une seule parole, alors que normalement on est tout le temps en train de parler, soit technique, soit par ce qu'on voit. Mais là, pendant 10 minutes, on est resté un peu bouche bée.
Comment ça se passe en fait? Parce que à 3843 mètres de profondeur, forcément on est dans l'obscurité. Comment la découvre-t-on? Par quel biais lumineux peut-on la voir? Est-ce qu'on la voit bien? Est-ce que le Nautil, donc, qui est votre sous-marin, est doté de grandes baies vitrées super, super spacieuses pour profiter vraiment du spectacle? Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que c'est?
Le Nautil est un sous-marin, un mini sous-marin. La partie habitable, c'est une sphère qui fait 2,10 m de diamètre intérieur, dans laquelle il y a trois personnes qui prennent place, plus un tas d'équipements. Il y a trois hublots qui font à l'intérieur à peu près 9 cm de diamètre, à l'extérieur beaucoup plus. Ce sont des hublots coniques. Donc chaque personne à l'intérieur du sous-marin peut voir ce qui se passe à l'extérieur. On a une vision, je veux dire, très, très, très correcte de ce qui se passe. Évidemment, bon, il faut de l'éclairage, il faut beaucoup d'éclairage, parce que c'est la seule façon de voir d'un petit peu loin, donc d'avoir un champ de vision suffisamment large pour comprendre ce que l'on voit. On commence par descendre, donc la descente dure, avec le Nautil en tous les cas, elle dure 1h15, 1h30. C'est un sous-marin qui descend rapidement et qui remonte aussi à peu près à la même vitesse.
Ouais.
C'est un sous-marin donc qui appartient à l'IFREMER, hein, qui est un institut français de la recherche et de l'exploitation de la mer, qui a été fabriqué en France, donc c'est qui a fait énormément de plongées depuis. Mais bon, on a un système de positionnement qui permet de savoir où se trouve le sous-marin par rapport à l'épave. Ensuite, le sous-marin a un sonar donc qui lui permet de détecter à une assez grande distance l'épave et de se diriger vers l'épave, vers le point que l'on a choisi d'explorer ce jour-là. Et voilà.
Et alors, c'est éclairé de quelle façon? Vous avez des phares?
Ce sont des projecteurs qui ont d'ailleurs évolué au fil des années. Maintenant, il y a des projecteurs qui sont beaucoup plus puissants, qui sont des LED, hein, ce qu'on utilise un peu partout maintenant,
ouais.
Et qui sont puissants, qui consomment pas trop, parce que le problème, c'est que le sous-marin est équipé de batteries, et évidemment, la plongée est limitée par la capacité des batteries, donc moins on l'utilise de batteries, plus on peut rester de temps sur le fond.
L'épave s'étale sur un grand espace, j'imagine, au fond de la mer. Est-ce que vous avez pu tout voir, hein, toutes les parties du Titanic, ou est-ce qu'il en reste qui sont encore inaccessibles pour vous?
Toutes les parties, on les a vues, parce qu'il y a, si vous voulez, il y a deux grands morceaux, et puis il y a deux morceaux un peu plus petits qui sont des doubles fonds. Donc ça, on a fait une exploration complète de la zone. Il y a un champ de débris qui était grand puisqu'il fait à peu près un mile, c'est-à-dire à peu près 1800 mètres de large et à peu près 3 km 600 de long. On a vu, je vais dire, 90 ou 95% du champ de débris. Il y a sûrement des endroits où il y a peut-être rien, où il y a peut-être quelque chose, mais pas grand-chose, parce que il y a une partie de l'épave, si vous voulez, qui s'est désintégrée au moment où le bateau s'est cassé en surface ou très près de la surface. Là, il y a quelques divergences dans les avis, mais donc du coup, il y a un tas de débris qui se sont répandus tout autour dans ce champ de débris, qui est d'ailleurs même un peu allé pour une partie extérieure aux deux grands morceaux, qui sont quand même distants de 600 mètres l'un de l'autre. Hein, donc, mais ça représente, par rapport à la hauteur d'eau, ça représente pas une grande distance. On a fait aussi une cartographie très précise. Alors ça a été fait pas avec le sous-marin, mais avec d'autres engins, des robots autonomes qui ont fait une cartographie très précise de la zone. Donc on est sûr qu'on n'a pas raté un morceau important.
Alors vous parlez de robots autonomes, vous nous l'avez dit, on ne peut pas plonger avec des bouteilles évidemment à 4000 mètres de profondeur. Donc vous descendez avec le Nautil qui est trop gros pour rentrer dans l'épave. Comment avez-vous réussi à récupérer des objets qui ont appartenu donc aux passagers du Titanic et qui sont aujourd'hui exposés à la Cité de la Mer? Comment ça se passe?
Alors, on avait décidé dès le départ de ne rien récupérer à l'intérieur de l'épave. Pour c'est-à-dire un peu respecter le lieu. Donc, et en plus, comme il y a un champ de débris, dans le champ de débris, il y a des dizaines de milliers d'objets, donc largement suffisamment pour pouvoir les récupérer sans... Ça serait faisable d'aller récupérer des objets à l'intérieur, mais il faudrait construire un robot spécialement pour ça, pour des histoires de flottabilité, de pesée de l'engin, enfin, etc. Donc on les récupère dans le champ de débris. On a fabriqué des outils spéciaux pour ça, pour ne pas les casser. Quand on récupère un verre en cristal, avec les bras du sous-marin, le sous-marin a deux bras manipulateurs qui sont très puissants, beaucoup trop puissants pour récupérer des objets fragiles. Donc on met entre l'objet qu'on veut récupérer et le bras, les pinces du bras, des outils. Il y a un outil qui est très, très facile à comprendre, c'est un genre de ventouse qui est relié à une pompe. Donc on peut délicatement, comme ça, récupérer des objets très fragiles, les mettre dans un panier qui est soit sur le sous-marin lui-même, soit on disposait des paniers dans le champ de débris où on mettait des objets plus gros que le panier du sous-marin. Et une fois que ces paniers étaient suffisamment pleins, on avait un système en larguant des poids qui permettait à ces paniers de remonter en surface, d'être récupérés, d'être immédiatement photographiés et répertoriés et rincés, enfin, etc., avant d'être conservés dans des laboratoires à terre.
Alors, on va se retrouver dans un instant, Paul-Henri Narjolet. On pourrait vous écouter pendant des heures. Jour J reprend le plus vite possible sur l'antenne d'RTL. On parle du Titanic, vous l'avez compris. À tout de suite.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Avant de parler foot sur l'antenne d'RTL, on vous emmène en exploration ce soir avec Virginie Bruno-Beaufrère, avec Paul-Henri Narjolet. On descend à 3843 mètres de profondeur. Nous sommes dans l'Atlantique Nord et regardez, là, juste en face de vous, il y a l'épave la plus célèbre du monde, celle du Titanic. Mais que ce doit être émouvant, Virginie Bruno-Beaufrère, de récupérer ces fameux objets qui ont été eux-mêmes... je dirais, quelque part, pris par Paul-Henri Narjolet. Paul-Henri Narjolet, vous êtes océanographe. Vous nous expliquiez il y a un instant par quels moyens vous arriviez à remonter des objets du Titanic pour qu'on les conserve, que l'on les répertorie et qu'ils soient restaurés avant d'arriver à la Cité de la Mer à Cherbourg. Quels sont les objets que vous avez trouvés, Paul-Henri, et celui qui vous a le plus touché?
Il y a beaucoup d'objets qui m'ont beaucoup plu. Ça a été par la difficulté pour les récupérer, comme un morceau de la coque qui pesait 20 tonnes, qui nous a quand même pas mal de temps pour le récupérer. Il y a d'autres petits objets. Moi, il y a un petit objet que j'aime beaucoup, qui est un tout petit arrosoir en porcelaine très vilain, avec souvenir de Folkestone dessus. Vous savez, c'est le genre de petit objet qu'une grand-mère pose sur sa souvenir pose sur sa cheminée. Et chaque fois que je le revois dans des expositions, ça m'amuse parce que je me souviens du jour où on l'a récupéré. Alors évidemment, comme vous le disiez, c'est pas moi qui ai récupéré tous les objets. C'est un travail d'équipe. Grosse équipe de l'IFREMER et à tour de rôle on plonge, à tour de rôle on est chargé de faire. J'ai eu la chance moi de participer à toutes ces expéditions. C'est pour ça que je continue d'ailleurs à le faire maintenant.
Alors, les objets, ce sont quoi? Des assiettes, des lettres, des objets personnels, des brosses à cheveux?
Alors, c'est un petit peu de tout, justement. On a fait un peu le tour. Il y a effectivement de la vaisselle. Il y a des objets personnels qui étaient contenus dans des sacs. Il y a des lettres. Alors, les lettres, on peut les récupérer. Enfin, les conservateurs qui font des miracles, à mon avis, sont capables de conserver ces lettres à condition qu'elles aient été contenues dans des sacoches en cuir parce que le cuir, lors de son traitement, utilise des produits chimiques qui peuvent protéger le papier et même l'encre, puisque on a lu des lettres. Il y a des lettres qui sont absolument fantastiques parce que elles ont été écrites à la main, c'est vraiment extraordinaire de relire tant de temps après des lettres et qui ont pu être conservées, et la conservation va durer, quoi. Alors il faut de temps en temps, après des expositions, refaire des traitements sur certains objets, mais pour certains c'est pas nécessaire. Tout ce qui est en verre, en porcelaine, ça tient le coup sans problème.
Et c'est fou parce qu'on pourrait envisager que 73 ans sous l'eau, c'est assez suffisant pour tout détruire, alors que vous nous dites que non, hein, Paul-Henri Narjolet. Alors, Virginie Bruno-Beaufrère, quels sont les objets que l'on peut voir à la Cité de la Mer à Cherbourg? Ils sont répertoriés, il y en a 53, c'est une grosse exposition. Qu'est-ce qui va pouvoir, à un moment donné, nous raconter des histoires?
Alors, c'est difficile aussi de choisir. On a des objets qui sont relatifs au paquebot, à l'équipement, au confort dont on parlait tout à l'heure, au fameux téléphone qui a permis de donner l'alerte entre le nid de pie et la capitainerie au moment. Et puis, il y a des objets évidemment personnels, des bijoux, des objets de toilette, un chapeau melon, des objets comme ça, des objets du voyage évidemment, parce qu'on a des personnes de première ou de troisième classe qui faisaient des grands voyages, des voyages autour du monde. Donc, ils témoignent, en effet, ces objets témoignent de leur voyage, des monnaies différentes. Et puis, moi, ce qui me touche beaucoup, c'est ces chaussures de cérémonie qui appartenaient à un jeune passager argentin de 17 ans, qui faisait ses études en Angleterre, et qui allait rejoindre son frère aîné à New York pour son mariage. Et ces objets, ces chaussures de cérémonie m'ont touché beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Et ils sont tous reliés à ces histoires fantastiques et on a remonté le fil de l'histoire de chacun de ces objets.
Mais alors, comment avez-vous fait justement? Parce que j'ai l'impression que vous connaissez l'histoire de ces objets. Et rapidement, comment est-ce que ça se passe?
Alors, grâce évidemment à l'équipe américaine MRMS Titanic, à Paul-Henri Narjolet et puis ses collègues évidemment qui connaissent bien les objets, mais aussi à certains des descendants, puisqu'on a pu rentrer en contact avec certains d'entre eux pour justement compléter les parts d'histoire qu'on ne connaissait pas encore et remonter le fil plus précis de leur histoire. Et c'est le cas notamment de ce jeune Argentin, puisqu'on est en contact avec son arrière-petit-neveu qui vit en Argentine encore.
C'est fou. Ça doit être passionnant pour vous. Vous ne devez pas vous ennuyer,
non,
hein,
Virginie
Bruno, beau-frère. Paul-Henri Narjolet, il y a encore des choses à découvrir sur l'épave du Titanic, nous disiez-vous, et ce sera ma dernière question. Est-ce que tout est amené à disparaître un jour dans les eaux de l'Atlantique Nord?
Ah oui, ça c'est malheureusement, c'est comme tout sur Terre, hein, ça finira par disparaître, mais ça va mettre encore très longtemps. Ce qui se passe, c'est que les ponts s'affaissent les uns sur les autres, et la dégradation se voit d'ailleurs allant de l'arrière vers l'avant, parce que l'avant elle-même, la célèbre proue du Titanic, elle est une partie extrêmement résistante, puisqu'elle a le même échantillonnage que le reste du bateau, mais comme elle est beaucoup plus fine, ça va durer beaucoup plus longtemps. Mais petit à petit, tout s'écroule. Mais je veux dire, à mon avis, dans peut-être 200, 300 ans, il y aura encore du métal au fond, quoi. Mais c'est vrai que ça ressemblera plus à grand-chose, quoi.
Vous y allez à quelle fréquence, Paul-Henri Narjolet?
C'est très variable, ça dépend. J'en suis à ma 8e expédition. Il y en a eu 5, donc, avec le Nautil, dans les années 90. Ensuite, il y en a eu d'autres, et puis la dernière qui était vraiment assez extraordinaire pour moi, parce que ça s'est décidé 3 ou 4 jours avant. J'ai reçu un coup de téléphone de gens qui m'ont demandé si je pouvais les aider, leur donner des conseils sur les courants, parce qu'il y a du courant au fond, il y en a en surface. L'épave est quand même une épave assez difficile, et quand après toutes les explications que je leur ai données, ils m'ont dit finalement, est-ce que ça vous intéresse de venir avec nous? Et je dis oui. Alors j'étais au départ pour... je devais y aller pour 2 semaines. Et puis ils m'ont dit, est-ce que vous pouvez rester un peu plus? Je dis oui, oui, oui. Et finalement, j'y suis resté 6 semaines. Et j'ai fait 5 plongées. Donc super intéressante, parce que j'ai pu voir la différence avec... j'avais fait une autre expédition en 2019, à laquelle je n'avais pas d'ailleurs plongé moi-même, mais où j'étais présent sur le bateau. Et donc j'avais vu toutes les vidéos. Et comme ça, au fil du temps, j'arrive à voir assez bien la dégradation et comment ça se passe, quoi.
Eh bien, je vous remercie de nous avoir accordé du temps, Paul-Henri Narjolet, depuis donc le Connecticut. Quand vous reviendrez en France, j'espère qu'on aura l'occasion de vous recevoir dans ce studio. Merci à vous d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle que vous êtes directeur du programme de recherche de la société Royal Mail Ship Titanic. Merci, Paul-Henri Narjolet. Merci beaucoup, Virginie Bruno-Beaufrère, d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle que vous êtes responsable des expositions de la Cité de la Mer à Cherbourg et qu'il faut absolument y aller, parce que c'est un endroit absolument magnifique, c'est impressionnant, et cette exposition est actuellement ouverte, donc il faut retourner dans ces endroits tels que la Cité de la Mer et pouvoir découvrir tous ces objets du Titanic. Merci beaucoup.
Merci
et bon retour dans le Cotentin.